Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde en RTL Soir, épisode 38.
On est ravis de vous accueillir.
Ah, pardon.
Bah oui.
Oh là là là. À chaque fois, oh là, à chaque fois, il fait ça.
Salut, j'en reste 5, Stéphane.
Ah, je m'y fais pas, ça. Cyprien Cini, pardon, donc est là pour vous accompagner, bien sûr, ou accompagner, avec Céline Landreau, avec Laurent Tessier, avec Damien Béchiot. C'est le numéro 38 ce soir, vous l'avez compris, on est le 29 mai, vous réagissez, vous commentez. Vous avez à disposition la page Facebook de l'émission, le compte Twitter, et puis à l'issue de tout ça, le podcast. Cher à Cyprien, c'est parti, numéro 38, voici le sommaire.
Après le confinement, l'exode. Les urbains vont-ils déserter pour de bon les métropoles ? Fantasme ou principe de réalité ? Décryptage à venir. La Ligue 1, covidée, foot en danger. La pandémie ébranle tout le modèle économique du foot français. Notre sport préféré peut-il s'effondrer ? Évidemment, comme tous les vendredis, vous retrouverez le loser de la semaine, le grand perdant de Céline Landreau. Et ce soir, Céline, votre loser, avait tout prévu, sauf la météo.
3, 2, 1... Et non, pas de décollage pour SpaceX.
Dans notre billet retour, on reviendra sur le mariage pour tous. En 2013, les députés s'écharpaient comme rarement. Ben, 7 ans plus tard, quel est le bilan de la loi Taubira ? Au menu également, vos indispensables 3 infos pour briller au dîner. Un moment de douceur et de sourire avec la belle histoire de la semaine dans l'instant trop mignon. Le palmarès de vos appels au 3210 dans le Prodomètre. Et comme tous les vendredis, un cadeau. Ce soir, on vous offre un fabuleux coffret beauté pour une peau lumineuse et totalement repulpée. Idéal pour préparer l'été. Le jeu, ce sera comme d'habitude vers 19h40. On défait le monde, épisode 38. Encore 4 dodos et on pourra retourner dans les bars. C'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Vous en aurez fait des cadeaux, Cyprien.
Ah ouais.
Cini. C'est le surf de la semaine, Cyprien, qui surfe tous les matins du lundi au vendredi, 6h40 et juste avant 8h, vous le savez. Et le vendredi soir, c'est la version longue, c'est le surf de la semaine, ça veut dire les temps forts sonores des derniers jours.
Et oubliez le déconfinement, tout ça, non. L'info principale de la semaine, c'est que nous sommes le 29 mai, hein. On vient donc de traverser la dernière semaine de mai, sans entendre cette phrase pourtant traditionnelle à cette époque de l'année.
Cette fois-ci, c'est terminé. Énorme déception.
Catastrophe.
Désillusion même.
Il n'y a plus de Françaises à Roland-Garros.
Et ça y est, plus aucun Français en lice.
Il n'y a donc plus de Français ni de Françaises en simple dans le tableau de Roland-Garros.
Ah, ça fait bizarre, hein. Eh oui, on a trouvé comment éviter que les Françaises prennent des taux à Roland-Garros. On a supprimé le tournoi, hein. C'est un peu radical, mais c'est efficace. Bon, après, c'est vraiment pas de bol, hein, parce que l'autre phrase clé à Roland-Garros chaque année, bah, c'est aussi...
En direct de Roland-Garros, vous voyez, c'est la première image que vous montre Olivier Viratel. C'est la pluie. Il pleut depuis pratiquement 2 heures. Ça donne quoi, messieurs, ce que la pluie derrière moi ?
Aucune reprise de match avant 15 heures. Bon, il y a une espèce de rideau pluvieux qui traverse la France en ce moment. On est en plein sur la trajectoire.
Match interrompu par la pluie. Eh ben, on a même dépensé des millions pour faire un toit cette année. Et là, comme par hasard, bah, toute la semaine, niveau météo...
On dirait un ciel tout bleu là-bas, un nuage. Et bien chaud, effectivement, parce que le soleil, à cette époque
c'est
de l'année...
C'est quand même dingue, hein, on n'a pas vu une goutte de pluie depuis des lustres. Et ça va durer la semaine prochaine. Non, visiblement, il y a un truc avec Roland-Garros qui est donc reporté, hein, du 20 septembre au 4 octobre. Et là, je peux déjà vous dire que... Bah, il a tombé des sondeaux. C'est pas possible autrement. Alors gardez l'enregistrement, je prends les paris, on en reparle la prochaine fois. Bon, sinon, ça aussi on aurait pu parier dessus, mais bon, ça mange pas de pain. Édouard Philippe en septembre dernier sur les municipales qui déclarait:
la règle selon laquelle lorsque l'on est ministre, on ne peut pas cumuler sa fonction de ministre avec la tête d'un exécutif local restera valable.
La règle de non-cumul, maire et ministre, restera valable. C'est donc pour ça que dimanche dernier, Gérald Darmanin a été maire de Tourcoing. Hein. Je vous rappelle qu'il est aussi ministre. Gérald Darmanin qui, en 2016, se moquait pourtant de Laurent Wauquiez parce qu'il cumulait, souvenez-vous.
Il me semble que lorsqu'on a des grandes responsabilités, notamment lorsqu'on est président de région, notamment de la deuxième région de France, rester parlementaire me paraît relevé de Superman. Mais tant mieux, je n'ai pas la même force physique manifestement que Laurent Wauquiez.
Ouais, il a dû aller à la salle depuis hier avec Darmanin. Bon, enfin, vous le savez, dans cette chronique et dans cette émission en général, d'ailleurs, on essaie toujours de vous apprendre des choses. Du coup, voici le mot de la semaine que nous avons découvert grâce à Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Attention, écoutez bien.
Adoptant évidemment le 6 janvier 1978 la loi informatique et liberté, à une époque où l'on parlait encore d'informatique et non pas de numérique ni d'ordiphone.
Ordiphone. Alors, ordiphone. Eh bien, ordiphone, c'est un mélange entre ordinateur et téléphone. En fait, c'est un mot valise. C'est smartphone, mais en version 1995. Oui, le mot a été préconisé à cette époque pour éviter les anglicismes. Plus personne ne l'avait utilisé depuis 95, donc c'est un temps où Jacques Toubon, ministre de la Culture, faisait des pieds et des mains pour essayer de remplacer tous les anglicismes de notre langue, ce qui nous avait offert cette scène mémorable avec Jacques Chirac, président. Attention, séquence nostalgie de la semaine.
Pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais Jacques Toubon me corrigera. Je vais profiter du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing. Donc j'ai rien dit là.
Et alors derrière, il avait enchaîné.
Design qui est opa.
Si, c'est officiel, c'est admis.
Ah bon
oui. Enfin, ça, on peut dire.
Allez-y. On peut dire quoi?
Non, la stylique.
La stylique. Alors la stylique. Quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony. Autant de, comment dit-on, Stylic Men. Oh non, pardon.
Eh ouais, parfois c'était sympa aussi la politique du monde d'avant. Allez, vivons la semaine prochaine.
Collector, le sort de la semaine signé Cyprien Signé. On défait le monde, la suite, le numéro 38 à 19h22.
RTL Soir, on défait le monde.
C'est la première grosse info de cette semaine, c'est un peu le bonheur et dans le pré après le confinement, place à l'exode.
Eh oui, et si le confinement avait vraiment donné envie aux Français des grandes villes, bah de prendre le large. Il y a un sondage qui est sorti cette semaine expliquant que 40% des franciliens souhaitaient définitivement quitter la région Île-de-France au plus vite. Et alors le phénomène, je le précise, serait le même dans toutes les grandes villes. Alors, simple envie passagère ou véritable exode urbain en préparation. Mon cher Laurent Tessier, vous avez fait le tour des agences immobilières pour essayer de démêler le vrai du faux.
Ouais, ce qui est vrai, c'est que le confinement a été un révélateur. Si l'on regarde de plus près les motivations pour quitter les grandes villes, c'est la recherche d'une meilleure qualité de vie, un environnement moins stressant, plus proche de la nature. Il y a aussi l'accès à un logement plus grand et moins cher et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
Et alors les Français, ils ont essayé de se lancer ou pas?
Alors ils regardent. Hein. Ah. Selon une étude du groupe Se Loger, près des deux tiers des recherches concernent en ce moment même une maison. Habituellement, c'est du 50-50 hein, avec l'appartement, plus 5% de recherches sur les biens situés en province. Et ces projets profitent clairement aux petits et moyenne ville. Et on commence à en vouloir plus. Écoutez Séverine Amat, elle est la porte-parole du groupe Se Loger.
Un acquéreur sur cinq a revu à la hausse aussi la superficie du bien qu'il recherche depuis le début de la période de confinement. Et ça, c'est une donnée que l'on remarque aussi sur la consultation de nos sites, puisqu'on note effectivement une appétence plus marquée pour les superficies supérieures à 100 mètres carrés, voire jusqu'à 250 mètres carrés.
Et toutes celles et tous ceux qui souhaitent partir ont des exigences. Hein. La présence d'un espace extérieur compte plus qu'avant le confinement. Une terrasse, un jardin. Ouais. Il y a aujourd'hui aussi plus de vigilance sur la présence dans le bien d'un accès Internet ou la fibre optique. C'est un point, bah, c'est vrai, qui est primordial pour le bon fonctionnement du télétravail.
Cet attrait pour les villes moyennes se confirme.
Oui, je suis troublée, pardon Laurent. C'est quoi la région qui suscite le plus de curiosité?
Eh bien c'est la Bretagne, Céline. Les consultations des annonces immobilières, tout type de biens sont en forte hausse, plus 17% en mi-avril. Si vous cherchez même une maison neuve dans certaines régions, vous n'êtes pas les seuls, plus 20% de recherches en Normandie et Nouvelle-Aquitaine.
Voilà, bien, Normandie, bien sûr.
Et les recherches de maisons avec piscine explosent sur les sites du groupe Se Loger, plus, attendez, 121% au mois d'avril. Et des villes partout en France sont en train de tirer leur épingle du jeu avec des prix plus attractifs, des espaces plus grands. Séverine Amat nous donne un exemple.
Cet attrait pour les villes moyennes se confirme notamment à Marseille avec l'émergence de Marignane, qui est une ville située à quelques kilomètres de Marseille, mais qui a enregistré une forte consultation du terme maison, puisqu'on est passé de 52 à 81% sur cette période de confinement.
Et on va être encore plus large, c'est tout le pays qui est concerné par le phénomène.
On note aussi cette appétence effectivement aux alentours de Lille, avec deux villes qui émergent, Onchin et Aisne. Là aussi où les prix au mètre carré sont en deçà des prix constatés sur Lille, tout comme Talence aussi qui émerge bien aux alentours de Bordeaux. Et puis sur Lyon, on peut noter aussi l'appétence de Givors qui se détache. C'est une des communes certes les plus éloignées de Lyon, mais qui peut être une des plus intéressantes en termes de prix.
Et on peut encore plus détailler le phénomène. Oulin, près de Lyon, commune de 26 000 habitants, plus 208% de recherches. Près de Nantes, à Saint-Herblain, les recherches de maisons ont doublé.
Alors, de changer d'air, elle est bien réelle, on l'a compris. Mais est-ce qu'on va vraiment le faire? Est-ce que l'essai va être transformé?
On est à l'heure actuelle sur le domaine de l'intention. Alors, entre les intentions et les actes, il y a quand même un écart important. Écoutez, Laurent Vimont, c'est le président des agences immobilières Century 21.
C'est un peu le principe, vous savez, du 1er janvier, quand on a l'intention de s'inscrire à la salle de sport, qu'on s'y inscrit, et bien 6 mois après, il y a plus d'abonnements que d'abonnés. Se renseigner n'est pas passé à l'acte, encore une fois, le passage à l'acte, il est très difficile, il a des conséquences importantes sur la vie de famille, sur l'école des enfants, sur l'emploi, sur les temps de trajet, les coûts de transport, donc il y a certainement des gens qui, parce qu'ils ont souffert pendant le confinement, ont envie d'aller voir du vert, mais entre le temps qu'ils passent à regarder sur Internet et ce qui va se passer derrière, moi je reste très réservé, donc il est probable que le fait de retrouver sa liberté, de pouvoir se balader, de plus être confiné, mettre de côté ses projets et que les habitudes reprennent malheureusement le dessus.
Et un phénomène en revanche, on a vu quelques franciliens CSP+ partir se confiner à la campagne en louant une maison et ceux-là sont en train d'acheter une résidence secondaire à 100 km de Paris, mais ils ont des moyens élevés et ce n'est pas donné à tout le monde.
Voilà l'exode, on verra si ça va se concrétiser ou pas. L'enquête signée Laurent Tessier dans On défait le monde, c'est le numéro 38. Nous sommes le 29 mai de cette année 2020. La première info pour briller au dîner, c'est juste après ceci. C'est un président qui est à la tête du jury ce soir. Je vous donne la petite info et je dirai rien d'autre d'ici 20h. Et figurez-vous que maintenant, parce que souvent c'est trop long, vos infos pour briller.
Vous parlez de moi là.
Oui, notamment. Et ben, il y aura un petit chrono qui arrivera dans les ultimes secondes. C'est pas cadeau, c'est comme ça.
Oh
tout de suite.
Là.
On défait le monde sur RTL. RTL soir jusqu'à 20h. L'info pour briller au dîner.
Le président du jury est à l'écoute, évidemment. C'est la première ce soir. Laurent, c'est consacré au rire.
Ouais, bah oui, Guy Bedos nous a énormément fait rire. Il continuera de le faire avec tous ses sketchs mémorables. Et c'est vrai qu'on en a bien besoin. On veut vivre ces moments tous ensemble. Eh oui, le rire est le propre de l'homme, disait François Rabelais. Bon, vous l'avez déjà entendu. Une minute de fou rire, c'est bon pour la santé. C'est l'équivalent de 45 minutes de relaxation. Plusieurs études scientifiques l'ont montré. Mais vous allez l'apprendre ce soir. On rit, oui, de moins en moins. À peine une minute par jour actuellement. On était à 6 minutes en 1983 et 19 minutes en 1939. C'est quand même le début de la Seconde Guerre mondiale. Preuve que là, on a vraiment perdu le sens de l'humour. Enfin, pas tout le monde. Une petite info en plus pour le président du jury, c'est cadeau. En moyenne, un enfant rit 300 à 400 fois par jour.
Ouais, c'est mignon. Et vous êtes pile à l'heure 50 secondes. Bravo.
Oui, il n'y
a pas eu le chrono dans les oreilles. C'était la première ce soir avec Laurent Tessier, les 19h31.
RTL Soir, on défait le monde.
Deuxième grosse info de l'émission, et si la crise du coronavirus bouleversait pour de bon l'économie du foot.
Des années que l'inflation des salaires de joueurs et des transferts paraît sans limite. Une courbe exponentielle. Juste à titre d'exemple, j'ai regardé dans les fiches, il y a un peu moins de 20 ans, Zidane passait de la Juve au Real pour 75 millions d'euros. Mmh. Un truc surréaliste à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez.
C'est bien sûr.
16 ans plus tard, le PSG a dû sortir 222 millions pour Neymar, bref, plus vite, plus haut, plus fort, c'est pas que la devise des JO. Sauf qu'aujourd'hui, entre le championnat arrêté, les matchs annulés et une reprise probablement à huis clos, tout l'équilibre de l'économie du football a l'air en péril. Céline, est-ce que ça peut changer la donne, mais pour de bon ?
Bah, ce qui est certain, c'est que depuis l'arrêt du championnat, vous en avez parlé, l'argent ne rentre pas, plus de rencontres, plus de spectateurs. Les recettes match, en temps normal, c'est 10% des revenus des clubs. Mais à l'approche de l'été, la grosse inquiétude du moment, ce sont surtout les transferts, comme l'explique Christophe Le Petit, il est économiste au Centre de droit et d'économie du sport à Limoges.
L'ensemble des clubs de football européens et mondiaux sont frappés par cette crise-là. Donc ils n'auront pas les mêmes moyens à consacrer au transfert de joueurs cet été. Il va y avoir une déflation du marché des transferts et de la valeur des transferts.
Et ça, c'est loin d'être anecdotique pour les clubs français qui ont beaucoup misé sur ce qu'on appelle le trading de joueurs, la formation, puis la vente de jeunes joueurs à d'autres clubs.
Les clubs français sont des clubs producteurs de talents sportifs, c'est-à-dire qu'ils forment des joueurs de football qu'ils vendent ensuite. Les recettes de transfert représentent 8 à 900 millions d'euros par an pour les clubs français. Donc c'est une recette qui est vraiment très très importante. On a des clubs qui ont fait des activités de transfert la pierre angulaire de leur modèle. Si le marché des transferts a une déflation brutale, si certaines créances ne sont pas versées, ces clubs-là sont en grand danger. Donc on peut penser à l'AS Monaco, voire le LOSC Lille, qui est vraiment axé sur ce modèle-là.
Mais alors, les droits télé qui se sont envolés là récemment, ça n'a pas tout réglé ça ?
Ah, c'est vrai, d'abord qu'ils se sont envolés. Il faut savoir qu'ils avaient été renégociés bien avant la crise. C'était il y a deux ans, en 2018, pour une période de quatre ans sur l'exercice 2020-2024. Les clubs de Ligue 1 devraient donc toucher plus d'un milliard d'euros par saison pendant quatre ans. Mais ça, à condition évidemment que toutes les rencontres puissent bien avoir lieu aux dates et horaires établis dans les contrats, sans quoi évidemment ce montant il pourrait être renégocié. Et comme les clubs sont des entreprises comme les autres, si les recettes baissent, c'est déjà une certitude, on l'a dit, pour la vente des billets. Ça risque d'être le cas pour les transferts. Il faudra probablement baisser aussi les charges. Et là, on parle surtout des salaires des joueurs. Ça représente en général 60 à 70% des dépenses des clubs.
Donc Céline, c'est fini les salaires mirobolants là ?
Alors, d'abord, il faut rappeler que ces salaires mirobolants, c'est une minorité de footballeurs. Ils sont très peu à gagner un ou plusieurs millions d'euros par mois. Le salaire médian en Ligue 1, à titre d'exemple, il tourne plutôt autour de 55-60 000 euros. On est d'accord, c'est pas mal, mais pour des carrières très courtes. Et ce qui est vrai aussi, c'est que cette crise, elle pourrait montrer la nécessité d'une plus grande régulation du secteur. C'est en tout cas ce qu'appelle de ses voeux l'économiste Christophe Lepetit.
La crise est le moment opportun pour qu'on s'assoie autour d'une table à l'échelon au minimum européen pour justement envisager une régulation beaucoup plus stricte et globale du football. Et peut-être qu'il faut poser sur la table la question d'un plafond salarial avec des modalités à déterminer, mais qui reviendrait à éviter d'avoir de telles dérives.
Régulation indispensable, selon lui, pour sécuriser le modèle économique d'un secteur qui, c'est vrai, Cyprien, vous le rappeliez tout à l'heure, a connu une croissance fulgurante ces dernières années, mais qui s'avère aussi, et on l'a constaté, très fragile face à une crise sanitaire.
Voilà, enquête passionnante hein, de Céline Landreau, qui adore le sport en particulier, et le football en particulier, et le sport en général, ouais. Évidemment. Je voulais juste ajouter un petit quelque chose, parce qu'on est là pour vous apprendre des choses, que Roger Federer est désormais le sportif le mieux payé de la planète, le tennisman suisse. 106 millions de dollars sur l'année. Et donc, il est devant Ronaldo, Messi, Neymar et le basketteur LeBron James.
En même temps, c'est énorme, Roger Federer.
Là, on parle du coup moins de salaire, mais plus de revenus publicitaires, évidemment.
Absolument. Elle précise bien les choses. Elle est incroyable. Restez bien avec nous. La suite de On défait le monde, c'est juste après ceci.
RTL Soir, on défait le monde.
Simplement.
RTL Soir, jusqu'à 20h. L'info. Pour briller au dîner.
À 19h38, c'est la deuxième ce soir. Le rire tout à l'heure avec Laurent Tessier. Place à Cyprien Signy avec les lunettes de soleil.
Mais oui, c'est l'été. Enfin, c'est un temps d'été. Et quand il fait beau et qu'on a du style.
I'm sexy and I know it.
On sort ses lunettes de soleil. On sort ses Ray-Ban. Tiens, d'ailleurs, vous connaissez l'origine du mot Ray-Ban? Parce que c'est pas le nom d'un gars genre Ray Charles quoi, qui aurait créé des lunettes. Non, non, non. En fait, dans les années 30, l'armée américaine commande à un groupe ophtalmo new-yorkais des verres super protecteur pour que ses pilotes ne soient plus aveuglés par le soleil. Ce groupe d'ophtalmo, c'est Botch & Lomb. Après plusieurs mois de recherche, ils aboutissent à un verre super efficace. Ils expliquent qu'il est Ray Banner, littéralement qui bannit les rayons du soleil. Ils vont contracter le mot pour en faire une marque. De Ray Banner est né Ray-Ban, diminutif de bannir les rayons du soleil.
Et du coup, c'est un écran publicitaire, ça ou pas?
Ouais, c'est ça, ouais. Ça compte peut-être 43 secondes de pub.
Ah bah peut-être, mais je récupère le...
En tous les cas, c'était une info pour briller au dîner.
Vachement bien.
Le président mystère du jury est à l'écoute, bien sûr, le verdict tout à l'heure. Après la troisième, ce sera Céline.
RTL.
Le loser de la semaine.
Tiens, elle fait la maline avec les publicités, là. Céline Landreau, le grand perdant de la semaine, celui qui a eu un mauvais karma. Et ce soir, Céline, un constat s'impose. On peut maîtriser beaucoup de choses, avoir beaucoup d'argent, plein d'idées géniales, mais quand le ciel veut pas, il n'y a rien à faire.
Oui, rappelez-vous, mercredi, nous aurions dû vivre un événement historique.
Deux astronautes de la NASA vont décoller ce soir de Cap Canaveral en Floride, direction la Station Spatiale Internationale.
C'est un vol historique.
Le rêve, la folie du patron de SpaceX qui va devenir réalité, la mise en scène est hollywoodienne.
Et c'est vrai que les Américains qui devaient prouver grâce à SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, qu'ils avaient retrouvé leur autonomie dans l'espace, avaient fait les choses en grand, mise en scène soignée, sous les yeux d'un invité de marque.
That looks like Air Force One. President Trump on board making his way.
Donald Trump en personne avait fait le déplacement pour assister au décollage. La planète entière retenait son souffle et suivait étape par étape ce processus. Ici aussi d'ailleurs sur RTL.
Les deux astronautes américains de la NASA sont dans la fusée SpaceX en ce moment même. Les capsules ont été fermées. Décollage apparemment imminent.
Et puis 17 minutes avant le départ.
Dragon SpaceX, nous n'allons malheureusement pas effectuer le vol aujourd'hui. Préparez-vous au report du lancement.
Le lancement de la fusée SpaceX a été reporté à la dernière minute en raison des conditions météo.
La météo, foutue météo, trop dangereux de partir avec les orages. Fin des éditions spéciales. Bob Menkett et Doug Hurley ont dû remettre le pied sur la terre ferme en espérant pouvoir repartir samedi, demain donc. Bon, rassurez-vous, Donald Trump a déjà dit qu'il reviendrait, mais pas sûr que la couverture médiatique soit tout à fait la même. Mauvais karma donc pour SpaceX.
Et SpaceX, on rappelle, c'est donc Elon Musk.
Oui, vous savez, le patron de Tesla qui avait déjà remporté il y a quelques mois un titre de loser. C'était au moment de la présentation de son Cybertruck électrique, ce véhicule futuriste censé résister à tout. Et là aussi, Musk avait mis le paquet pour une présentation en grande pompe. Mais ce que les gens ont retenu, c'est surtout ça. Alors qu'il assurait que sa voiture était capable de résister aux armes de poing, pour le prouver, il avait demandé à un employé de lancer une boule de pétanque. Problème, la vitre de la portière s'était brisée, pas très probant. Elon Musk abonné au lancement raté, mais pour ce qui est de SpaceX, il aura une nouvelle chance demain soir. Ce sera à 21h22 très précisément, heure française.
Et vous avez la météo ou pas?
Non, pas encore. Normalement, ça devrait être mieux.
Voilà, loser avec Céline Landreau dans On défait le monde, ce numéro 38. Place au jeu parce qu'on a un cadeau pour vous.
Et là, à l'approche de l'été, ce cadeau va faire sensation. Un kit de produits de beauté visage pour repulper la peau. Alors, il y a tout dans le coffret. Le soin anti-âge. Et alors, je vous précise qu'il n'est jamais trop tôt pour mettre du soin anti-âge. C'est un conseil d'expert. Soin anti-âge, donc, les démaquillants et le sérum qui raffermit et améliore la luminosité de la peau. Tout ça, c'est pour vous dans la boîte à caresse, Kiriness, Temps Sublime Light, c'est le nom de la boîte. Autant vous dire qu'avec ça, pour la fête des mères, vous faites un carton. Mais alors d'abord, il faut répondre à la question du soir. Ah. Tout à l'heure, dans son info pour briller, Laurent nous a dit combien de temps en moyenne on passait à rire dans une journée. Est-ce que c'est A, 2 heures, de toute façon, à part se marrer, on sert à rien. B, 15 secondes, on peut pas faire autrement, on fait que penser au monde d'après et ça fait flipper. Ou C, 1 minute, c'est bien, mais c'est pas top. Vous avez la bonne réponse, 32-10, on tirera au sort parmi les gagnants et on repassera un coup de fil, évidemment, au vainqueur en toute fin d'émission. 15 secondes, 2 heures ou 1 minute.
Et sachez que si vous êtes auditeur dont défait le monde, c'est peut-être faussé. Peut-être que vous riez plus à cause de nous, donc faites attention.
Ouais, non, ça compense le reste de la vie, voilà. Vous voyez.
3-2-1-0, les appels pour gagner le cadeau du soir de Cyprien Sinis. Tellement bien vendu, quel talent. Ouais. Cyprien qui vous offre tout ça ce soir. 3-2-1-0, le standard est accessible.
On défait le monde sur RTL.
Rendez-vous que les auditeurs adorent, c'est l'heure du billet retour. Oui. Quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne parle quasiment plus. Et cette semaine, Cyprien, vous avez souhaité revenir sur le vote de la loi autorisant le mariage pour tous.
Oui, souvenez-vous, c'était il y a 7 ans, quasiment jour pour jour.
François Hollande l'avait promis, il a promulgué la loi sur le mariage pour tous. Le journal officiel l'a publié ce matin.
Le 18 mai 2013, la France devenait le 14e pays à autoriser le mariage aux couples du même sexe. Une loi qui avait complètement hystérisé le débat public pendant plusieurs mois avec des opposants qui promettaient une forme d'apocalypse, souvenez-vous.
Votre principe d'égalité, tel que vous le voyez, va nous conduire à l'eugénisme.
Le problème du mariage homosexuel, c'est le fauné de la fin des droits de l'homme dans la République française.
Je voudrais vous faire part d'une inquiétude. Pourquoi pas, après-demain, le clonage façon Raël ?
Qu'est-ce qui empêche à dire à trois personnes qui s'aiment, trois hommes, deux hommes, une femme, deux femmes, un homme ou trois femmes, on se marie ? Qu'est-ce qui empêchera de dire non à ces demandes qui existent dans la société ?
Tout ça, c'était à l'Assemblée nationale. Bon, alors, 7 ans plus tard, premier bilan plutôt rassurant, la polygamie, l'eugénisme et le clonage ne sont pas devenus la norme. Et a priori, les droits de l'homme résistent, tant bien que mal.
Effectivement. Et plus concrètement, 7 ans après, on en célèbre beaucoup des mariages homosexuels.
Eh ben, de moins en moins, En fait, il y a de moins en moins de candidats et de candidates. Faut savoir que globalement, les mariages homosexuels sur les 7 ans qui viennent de se dérouler ne représentent que 3,5% de la part des mariages en général. Et alors, au début, la première année en 2014, on a assisté à un vrai engouement avec un pic à 10 522 célébrations. Puis petit à petit, ça s'est stabilisé autour de 6 000 par an lors des 2 dernières années. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on compare les courbes des mariages entre personnes du même sexe et personnes de sexe différent, eh ben, elles suivent exactement la même trajectoire. On a donc un désintérêt général pour le mariage.
Et en 7 ans, il y a eu d'autres évolutions ?
Oui, alors l'âge des mariés, notamment. L'année de la promulgation de la loi, l'âge moyen des mariés était de quasiment 50 ans pour les hommes et 43 ans pour les femmes. Mais depuis, cet âge moyen n'arrête pas de diminuer pour arriver aujourd'hui à environ 41 ans. Et là, en revanche, c'est l'exact opposé des couples de sexe différents qui, eux, se marient de plus en plus tard. En fait, on se rend surtout compte que 7 ans après, des débats enflammés avec des maires qui promettaient carrément de refuser de marier les homosexuels malgré la loi, la situation s'est complètement normalisée, voire apaisée. Mais certains opposants d'hier ont changé d'avis. Faut se souvenir qu'Alain Juppé ou Édouard Philippe, notamment, ont regretté publiquement publiquement d'avoir voté contre ce texte. Même le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, qui a pourtant participé aux manifestations contre le texte, a fini par dire qu'il ne souhaitait pas l'abroger.
Et alors, Cyprien, qui dit mariage dit divorce ?
Bah oui, mais alors là, on n'a pas de statistiques fiables. On se souvient peut-être que 5 mois seulement après la promulgation de la loi, il y a eu un premier divorce. Mais c'était pas si étonnant finalement, puisque près d'un mariage sur 10 se termine par un divorce avant 5 ans.
Et depuis, est-ce que d'autres pays ont emboîté le pas de la France dans la légalisation du mariage homosexuel ?
Oui, alors la France n'a pas été vraiment précurseur, hein, puisque je vous le rappelle, on était seulement le 14e pays au monde à autoriser le mariage pour tous. Le 9e pays européen. Depuis, l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande nous ont emboîté le pas. Dans le monde, il y a l'Australie, les États-Unis au niveau fédéral et même Taïwan, qui a été le premier pays d'Asie, ont aussi légalisé le mariage pour les couples de même sexe. Au total, aujourd'hui, 28 pays permettent aux couples homosexuels de se marier.
Le billet retour ce soir avec Cyprien Signy. Il est 19h47, la troisième info pour briller au dîner. C'est dans une poignée de secondes, vous restez bien avec nous.
RTL Soir, on défait le monde.
Pro.
RTL Soir, jusqu'à 20h. L'info pour briller au dîner.
Et le président mystère du jury, toujours à l'écoute, bien sûr, le rire avec Laurent Tessier tout à l'heure, les lunettes de soleil de Cyprien Signy. Et Céline, c'est à vous, on va voyager.
Oui, on vous parle beaucoup du déconfinement, évidemment, hein, depuis hier, de tout ce qu'on va pouvoir recommencer à faire, mais pas tout à fait comme avant. Eh bien, au Japon, on a poussé le concept assez loin. Là-bas aussi, les sites touristiques vont rouvrir, et notamment les parcs d'attractions, mais avec de nouvelles règles. Et si la plupart des consignes étaient assez attendues, les contrôles de température, l'utilisation des masques, etc. Il y en a une qui a davantage surpris, l'interdiction des cris, plus le droit de crier dans les maisons hantées ou dans les montagnes russes. Bon, après, on attend de voir comment ça va pouvoir s'appliquer, parce que quand ça va trop vite et qu'on a peur, c'est pas toujours facile de se retenir.
Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est dans la maison hantée, ça, non ?
C'était la troisième info pour briller au dîner dans ce On défait le monde, le numéro 38.
Oh, mais c'est l'instant trop mignon.
C'est le moment arc-en-ciel multicolore de cette émission, une info positive qui va attendrir nos petits cœurs de pierre.
Et une histoire de couture cette semaine, puisque nos amis belges de RTL Info ont repéré cette création d'une jeune maman, Kayla, qui a dû fabriquer un mini-masque pour protéger du coronavirus, mais pas pour protéger n'importe qui, pour protéger la petite souris, parce que sa fille, Evolette, 7 ans, a perdu une dent pendant le confinement, et elle avait peur que la petite souris prenne le risque de se contaminer, et peut-être de contaminer d'autres enfants en venant ramasser la précieuse dent sous son oreiller. Bah oui, c'est mignon, c'est le principe de la chronique, c'est rien. Sa maman s'est donc attelée à la création d'un masque sur mesure. Quand on regarde les photos, on dirait que ça a la taille d'un petit pansement pour le petit doigt, avec des petits liens sur le côté comme du fil de cuisine. Mais tout ça, ça a quand même permis à Evolette de déposer sa dent sans culpabilité.
Ouais, c'était bien,
c'est mignon.
Ouais,
c'est elle lui a amené combien, la petite souris ? On ne sait pas, parce que si elle a acheté le masque en plus à 0,95 centimes.
Ah oui, d'accord. Très intéressant. C'était formidable. Il est 8h10.
Coucou, c'est moi, le prodomètre.
Écoutez, Pascal, je trouve que vous avez changé.
Ce que vous dites est juste.
Le prodomètre, c'est le baromètre avec du Pascal Pro dedans, le palmarès de vos appels au 3210. D'après vous, les amis, cette semaine, quels sont les sujets qui ont le plus fait appeler Laurent Tessier, le président du jury, puisque c'est bras droit de Pascal Pro.
Attention.
C'est alors, varié
Le déconfinement.
Déconfinement,
bah oui,
j'imagine.
Déconfinement. Ouais.
La liberté.
Autre chose ?
Non, un truc bien polémique.
Ouais.
Je sais pas si je peux participer, ce que c'est, mais ça, c'est un truc très très polémique, quoi.
Lundi.
Lundi.
Toute l'émission d'ailleurs était consacrée à ce sujet lundi.
Et ouais, ça a cartonné.
Chanteuse, actrice.
Déclaration. Camélia
Jordana. Voilà. La polémique après les propos de Camélia Jordana. Elle accuse les policiers, je cite, de massacrer des hommes et des femmes pour leur couleur de peau. Et donc, ça a donné un bon débat au 3210.
Moi, je suis juste atterré par les propos de cette jeune personne. Depuis la crise des Gilets jaunes, j'ai une perte de confiance flagrante envers nos forces de l'ordre.
Le mot massacre, il faudrait qu'elle regarde ce que ça veut dire dans le dictionnaire.
Il y a beaucoup de jeunes qui se disent il y a une impunité du côté des forces de l'ordre. Qu'elle a voulu faire, elle s'est portée une parole.
Ouais, ça, c'était le sujet numéro 1 de la semaine des auditeurs en la parole. D'autres tops.
Les matchs de foot sauvages, là, non ?
Oui, effectivement. Match de football sauvage, mercredi, on a également reçu beaucoup d'appels au 32-10. Et on a rendu hommage, forcément, à Guy Bedos, aujourd'hui, avec Stéphane, restaurateur à la Baule, qui nous a contactés.
Guy Bedos, c'est une histoire d'amour avec la Baule depuis plus de 20 ans. Le midi, je l'attendais pour déjeuner. Il arrivait avec une demi-heure ou trois quarts d'heure de retard. Mais j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, il avait croisé 10 personnes et il avait discuté avec les 10 personnes. Puis il prenait le temps de discuter avec les gens. Il était vraiment très abordable. Il était au restaurant, il se levait, il allait discuter avec les autres tables. Je peux dire que du bien de ce sacré bonhomme.
Ouais. Par esprit d'escalier, Bigard, ça a fait appeler ou pas?
Oui, jeudi aussi, Jean-Marie Bigard, ouais. Candidat à l'élection présidentielle 2022, ça vous a fait réagir. C'était plutôt, les réactions étaient plutôt négatives, en tout cas à ce sujet. D'autres top aussi cette semaine, l'hydroxychloroquine, forcément, voilà, ça on a continué à en parler. Les époux Balkany aussi ont très bien marché. Et cette question mardi, êtes-vous prêt à acheter un véhicule électrique?
La situation de Renault aujourd'hui, ça n'a pas fait appeler.
Non.
D'ailleurs, j'en profite, Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, sera l'invité du grand jury dimanche.
Je fais
un peu de promo comme ça.
Vous avez raison,
parler de Renault.
Ouais, tout à fait.
C'est un peu l'homme de la semaine, quoi.
C'est un peu l'homme de la semaine, c'est vrai. Il y aura des choses à dire et surtout des questions à lui poser avec Benjamin Sport Touche. C'est du lundi au vendredi, dès 13h avec Pascal Pro pour échanger sur toute l'actualité. C'est au 32-10 que ça se passe. 3-2-1-0. On le salue, Pascal, parce que j'ai reçu des textos. Il est en train de nous écouter, évidemment.
C'est peut-être lui le président du jury.
Monsieur Pro. Et ça n'est pas lui ce soir encore. On a une gagnante pour le jeu de ce soir, mon cher Cyprien.
Une gagnante qui a gagné les crèmes, donc c'est Sandrine. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bienvenue Sandrine. Vous êtes où?
Bah, vous nous appelez d'où?
Dans les Hauts-de-France.
Ah, le Nord.
Oui, c'est très très beau.
Il n'y a pas de raison, il fait beau partout en ce moment. Ouais.
Bah, c'est l'endroit où il fait le plus beau.
C'est bon. Oh la mauvaise foi quand même.
Ah bon, je me tais, je m'écarte. Bon, vous avez bien répondu à la question.
Ouais. Combien de temps on sourit par jour, rit par jour en moyenne?
Ça me paraît peu, mais une minute.
Ah oui.
Eh oui.
Bah, c'est en moyenne. Sandrine. Vous rigolez plus que ça, non?
J'espère. Pendant les deux mois et demi passés, là, beaucoup moins.
Beaucoup moins, évidemment.
Malheureusement, mais je pense que là, ça va. Je vais essayer de me rattraper.
Ah, bah évidemment, en plus, les Hauts-de-France sont repassés en zone verte, là. Donc ça y est.
Oui, voilà, enfin.
Bravo, hein. Je vous félicite.
La liberté. Libérée, délivrée.
Double victoire.
Le cadeau arrivera à la maison rapidement. Est-ce que vous faites comme Cyprien, vous mettez régulièrement de la crème pour vous protéger, entretenir tout ça?
Oui, bah j'adore les produits de beauté, comme à peu près toutes les femmes. Quoi.
Ouais, moi aussi, j'aime bien.
Oh, on aime tout ça, finalement.
Alors, le sérum a l'air pas mal, hein, vous me direz, mais je crois qu'il a l'air pas mal.
D'accord.
Bon, il est sympa, votre sourire dans la voix, en tous les cas, Sandrine, ça fait du bien. Bah, on vous embrasse.
Pareil pour vous. Merci beaucoup, je vous embrasse
bonne
également.
Bonne soirée.
Merci de votre fidélité, bien sûr. Un gagnant ou une gagnante, c'est toutes les semaines, grâce au cadeau que nous vous offrons. Ça se passe au 32-10, 3-2-1-0. Je lève le mystère, puisque les auditeurs sont absolument la priorité, vous le savez, de RTL et de notre antenne. C'est un auditeur qui est ce soir le président du jury exceptionnel génial, pour l'info pour briller au dîner. Il se prénomme Alexis, nous écoute tous les soirs.
Non.
Il est voisin puisqu'il nous écoute depuis la Belgique. On l'accueille, Alexis, bonsoir.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir, évidemment. On explique le dessous des cartes. Vous nous avez envoyé un mail à nous, à l'équipe, très très agréable, très sympathique sur le contenu de l'émission et que vous étiez toujours à l'écoute. Donc on s'est dit, petit 1, il nous fait plaisir.
Oui,
donc, petit 1. Et puis petit 2, en plus, c'est votre anniv. On va y revenir dans un instant, Alexis. Le choix pour l'info, pour briller au dîner, ça se tourne vers qui, votre choix à vous?
Bon, alors comme je fais ça très sérieusement, que je voulais pas être suspecté de partialité, je pouvais difficilement désigner Céline Landreau après tout ce que j'ai écrit de bien à son sujet dans mon email.
Bravo Alexis.
Envoyé depuis mon ordiphone. Et donc, je vote pour Laurent Tessier, même s'il manquait...
Merci Alexis.
Même s'il manquait juste, un élément, c'est la comparaison entre les chiffres de 1939 et ceux de 1940. Ou à mon avis, on riait moins.
Ah oui, oui, ça c'est sûr. Oui. Je vais quand même préciser à tous les auditeurs que dans mon contrat en tout petit, il y a écrit « ne peut pas gagner pour l'info pour rire ». Parce que depuis le début de l'année, je crois que j'ai jamais gagné.
On a même fait appel aux auditeurs et ça marche pas.
Personnel.
Bon, Alexis est bon. Fidèle de cette émission régulièrement. Vous vous connectez, vous nous écoutez.
Ah oui, vraiment, j'avais raté la première émission parce que j'étais pas chez moi, mais dès la deuxième, j'essaye vraiment d'écouter tous les vendredis et quand c'est pas possible, j'écoute le podcast parce que j'adore ce concept. C'est vraiment chouette.
Le fameux podcast, après Thomas Soto, après Georges Lang, vous avez été ce soir le président du jury pour l'info pour Brio.
C'est vraiment un honneur.
Ouais. Voilà. C'est un beau cadeau d'anniversaire,
j'espère. C'est un beau cadeau. Hein. Profitez bien, on vous souhaite un très très bon anniversaire. Merci d'être passé par chez nous. Ce soir, on n'a pas une petite musique pour notre Alexis en termes d'anniversaire. On n'a pas...
Quand même.
Merci de votre fidélité, les amis. On se retrouve vendredi prochain.
Numéro 39.
Oh, on en a combien cette saison en tout?
Eh ben, il en reste encore 5 d'émissions. Donc on est à 38 plus 5. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait que.
C'est bon. Mais pendant ce temps-là, il réfléchit.
Non, je suis nul en maths. Bon, c'est une catastrophe. Je suis désolé. Voilà, je suis nul en maths.
Vivement vendredi prochain. Très belle soirée à vous tous.